Chapitre 31. Frank s'était mis en tête qu'on devait aller à la chasse. « Ça va être super », m'avait-il expliqué. « Je connais le coin idéal pour camper. Je l'ai découvert quand j'avais à peu près ton âge, mais il ne figure sur aucune carte. C'est juste une petite clairière sans rien autour en pleine forêt. On montera la tente, on se fera un frishti sur le feu, on comptera les étoiles dans le ciel. Tu verras, tu vas adorer. » J'étais moins convaincue. Camper, d'accord, pourquoi pas. Mais chasser supposait d'abattre du gibier. J'en étais encore à apprivoiser la carabine. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'avoir dans ma ligne de mire un animal dont dépendrait notre dîner. Mais quand Franck avait une idée quelque part, pas moyen de couper à cette partie de chasse. Nous avons commencé les préparatifs le jeudi soir. L'occasion de découvrir qu'une nuit de camping exige beaucoup de matériel. La moitié du contenu du garage, à peu près. Ma mission, m'expliqua Franck, était de maîtriser le montage de la tente avant que nous ne soyons en pleine nature, exténués après une journée de marche en forêt, peut-être trempés à cause des intempéries. Les intempéries? Oui, la pluie, par exemple. Il est censé pleuvoir. On va camper sous la pluie. Franck me charria.
Quoi? Tu crois que Lewis et Clark ne sortaient que par beau temps?
Je crois que si Lewis et Clark avaient eu Google Maps, ils seraient restés chez eux.
Tu sais ce qu'il y a de mieux dans le camping?
Non.
Certains enfants pensent que ce sont les chamallows grillés.
J'ai plus 6 ans.
Et certains types que c'est le fait de veiller toute la nuit en buvant des bières autour d'un feu.
Pas mon genre.
C'est le silence, Telly. Pour les gens comme toi et moi, c'est le seul endroit, le seul moment où trouver la paix.
La tente, donc. S'entraîner au montage, s'entraîner au démontage. Pourquoi pas? Le montage se révéla assez simple. Franck tenait à ses joujoux et la tente dôme L.L. Bean haut de gamme était facile à comprendre. Enfiler les arceaux dans les gouttières en tissu A, B et C, les fixer au coin et hop, un abri en polyester bleu indéchirable. Pas mal, je dois reconnaître. Montage de la tente validé. En revanche, la démonter et la rouler pour la faire rentrer dans sa housse de rangement, pas moyen, impossible. J'ai essayé de la plier dans un sens, dans l'autre. Tu parles d'un casse-tête. Franck n'aurait pas levé le petit doigt pour m'aider. Il avait sorti le plus gros sac à dos que j'avais jamais vu. Une armature métallique, une ceinture et des bretelles rembourrées, des attaches un peu partout.
« On ne porte pas un sac avec son dos »,
m'expliqua-t-il lorsque je fis enfin une pause à bout de souffle, la moitié de la tente rentrée dans la housse, l'autre moitié explosée à l'extérieur comme un champignon.
« C'est le meilleur moyen de s'épuiser, voire de se blesser. »
En fait, il faut fixer la charge autour de ses hanches et la porter avec son pelvis comme la nature l'a prévu. Donc, en premier, tu serres la ceinture lombaire. Ensuite, évidemment, les bretelles pour tenir le poids serré contre ton dos. Dernier réglage, la sangle de poitrine. Crois-moi, si tu fais l'effort de bien positionner ton sac au départ, tu pourras avaler les kilomètres pratiquement sans t'apercevoir de sa présence.
Je lorgnai le monstre avec scepticisme. Il avait l'air de peser 10 bons kilos avant même d'ajouter cette fichue tente. Les tapis de sol, les cartes, les vivres, les accessoires et ainsi de suite.
On devrait peut-être laisser la tente, dis-je. En fait, tu devrais peut-être me laisser tout court. J'aime bien avoir un lit. Et l'eau courante et un toit au-dessus de ma tête qui ne risque pas de se déchirer ou de s'envoler comme un gros ballon.
Ça va être un week-end formidable, j'en suis sûr.
Je montai encore une fois la tente, la démontai encore, plusieurs fois. Jusqu'à ce que ça cesse d'être une galère monumentale et que ça devienne presque de l'ordre du possible. Mais ce n'était que la première phase de mon apprentissage. Après le montage de la tente et le chargement du sac, l'exposé sur les principaux objets nécessaires à la survie en pleine nature. Couteau suisse, allumettes, trousse de premier secours, comprimés pour purifier l'eau. Même un aimant et une ficelle avec lesquels on pouvait fabriquer une boussole de savant cosinus. On ne pouvait pas enlever ça à Franck. Il adorait vraiment son métier. Et puis, vu mes résultats au lycée, il n'était pas exclu que je me retrouve à vivre sous la tente dans un proche avenir. Après la prise en main du matériel, ce fut au tour de Sandra.
« Juste au cas où le gibier ne serait pas au rendez-vous, » m'expliqua-t-elle.
Elle me lança un petit sourire entendu et je devinai qu'elle comprenait tout ce que je ne pouvais pas dire à Frank, sur son petit nuage. Il pouvait être animé d'une telle joie enfantine qu'il aurait semblé cruel de le ramener sur Terre. « T'as déjà été campé avec Frank ?» demandai-je. Nous nous trouvions dans la cuisine. Premier encas des randonneurs, du granola, un mélange hautement énergétique. Sandra avait sorti des paquets de céréales, un sachet de pépites de chocolat et divers récipients contenant des fruits secs. En gros, je devais tout mélanger. Jusque-là, ça me semblait plus dans mes cordes que l'attente. « Oh oui, au début de notre mariage, on est souvent parti camper le week-end. » « Laisse-moi deviner, tu sais préparer un poulet à la parmesane sur un feu de camp ?» Elle fut amusée. « Du poulet à la parmesane, non. Mais si tu prends un triangle de pâte feuilletée, que tu l'enroules autour d'une saucisse, que tu emballes le tout dans du papier aluminium et que tu le fais tourner sur une brochette au-dessus du feu... »« Dis donc, t'as vraiment une recette pour tout. Henry dit que t'es aussi une fine gâchette, meilleure que Frank même. » Est-ce que j'avais l'air naturel en disant ça ? J'essayais, mais depuis que Henry avait évoqué ses talents, je mourais d'envie d'en savoir plus. Sandra, fée du logis le jour, tireuse d'élite la nuit. La femme aux deux visages. Elle se contenta de hausser les épaules, examina le sac congélation d'un litre que j'avais rempli avec le fameux mélange, ajouta de la noix de coco séchée. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il n'y avait pas de taupe dans le jardin ? Eh bien, maintenant tu sais. C'est Frank qui t'a appris ? Non. Elle se détourna, se dirigea d'un air affairé vers le réfrigérateur et je compris au ton de sa réponse que le sujet était clos. Il fallait s'y attendre. Parce que si c'était pas Frank qui l'avait initié au tir, je ne voyais qu'une personne qui avait pu le faire. Son père. Le mystérieux baron de la pègre dont Sandra affirmait qu'il était cruel par plaisir et sur lequel Frank m'avait dit de tirer à vue. Depuis la conversation que nous avions eue avec Frank et Henry dans la forêt, j'ouvrais l'œil. Pas que je pensais qu'un vieux papy allait justement se pointer pour faire du grabuge, mais parce que j'avais une folle envie de le voir de mes propres yeux. Le père de Sandra. Cette femme qui portait des jupes à fleurs de couleur vive et qui aimait mijoter de bons petits plats appartenait-elle, elle aussi, à une engeance diabolique ? J'avais toujours cru détenir une sorte d'exclusivité sur le marché des enfants de Satan, mais à présent j'avais un doute. « Tu vas t'en sortir !» dit d'un seul coup Sandra. Levant les yeux, je la trouvais en train de m'observer. « Quoi ?»« Tout va s'arranger. Un jour, tu fonderas une famille et tu seras le père que tu n'as jamais eu. Tu donneras à tes enfants l'enfance que tu n'as jamais connue. Et ce creux, ce vide qui existe en toi sera comblé. Tu n'auras plus besoin de regarder en arrière. Tu auras un avenir. »« C'est ce que t'as fait ?»« Oui. » « Et tu es heureuse ?» lui demandai-je avec curiosité. « Absolument. Mais Henry te manque. »« Bien sûr. Et un jour, toi aussi, tu me manqueras. »« Vous accueillerez un autre enfant. »« Tu construiras ta vie. Une belle vie. Je vois toutes ces qualités en toi, Telly. Tu es plus fort que tu ne le penses et tu as un cœur grand comme ça. Même si tu voudrais faire croire le contraire. Au moins assez grand pour passer un week-end sous une pluie battante avec mon mari. » C'est pas de la gentillesse, c'est de l'inconscience. Sandra sourit, sortit un paquet de saucisses du frigo. Tu vas trouver le chemin du bonheur, Telly. J'ai hâte de voir ça avec toi. Il a plu. Un vrai déluge qui a commencé dès que nous sommes partis après les cours du vendredi. C'est moi qui ai eu droit au sac le premier, parce que j'avais un dos solide et jeune, a dit Frank. Résultat, les gouttes d'eau s'accumulaient sur la barre supérieure de l'armature et me dégoulinaient dans le cou quand je m'y attendais le moins. Je portais une des vieilles vestes imperméables de Frank. Figurez-vous qu'il existe des indices d'imperméabilité. Je ne sais pas quel était celui de ma veste, mais ce n'était pas suffisant pour rester au sec. Une heure ne s'était pas écoulée que je commençais à me sentir mouillée. Le temps que nous terminions notre promenade de santé dans les bois. Regarde-moi cette clairière, regarde-moi ce ruisseau, regarde-moi cette mousse sur les arbres. « C'est une blague, Frank. » J'étais trempée jusqu'aux os. Pour finir, il m'a conduit au fameux lieu de campement. La bonne nouvelle, c'était qu'il y avait des palettes en bois apportées par Frank des années plus tôt pour nous éviter de patauger dans la boue. « Bon, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu montes la tente sur la plateforme. Tu t'en doutes, des palettes en bois ne sont pas ce qu'on fait de plus confortable pour dormir. Alors tu peux les recouvrir d'une couche d'aiguilles de pin ou de fougère pour faire matelas. Ou alors tu peux ne pas te compliquer la vie. » Je lui ai lancé un regard. Je n'allais pas me compliquer la vie. et je me suis rapidement félicité de l'entraînement de la veille, parce que sinon jamais je ne me serais dépatouillé de ces kilomètres de tente dans ces conditions dantesques. J'ai monté notre abri, et la question suivante a surgi. Comment démarre-t-on un feu de camp sous une pluie battante? La réponse est qu'on ne peut pas. Franck avait fabriqué un petit appentis à l'aide de branchages, et il était en train d'allumer le réchaud. Juste assez de chaleur pour griller 4 des saucisses et pas grand-chose d'autre. Assis sous la pluie, nous avons mangé des saucisses de Francfort à peine cuites et nous nous sommes passé le sac de granola. Franck souriait de toutes ses dents, il avait l'air heureux comme tout. « Pas d'étoiles, » dis-je en désignant du regard l'épaisse couverture nuageuse. « Ah, mais le silence, beaucoup de silence. » Pas grand-chose à faire quand on campe sous la pluie. Inutile de préciser que nous nous sommes réfugiés de bonne heure sous la tente après avoir accroché nos imperméables à l'abri relatif d'un arbre. Nous portions tous nos autres vêtements sur nous pour nous réchauffer. Jamais auparavant je n'avais éprouvé un tel bonheur à me glisser dans un sac de couchage. Et c'était vrai que nos minces tapis de sol n'étaient pas des plus douillets sur la palette en bois dur. Mais au moins je commençais à retrouver des sensations dans les orteils. Nous n'avons pas parlé. Tant mieux, je ne savais jamais quoi dire. Franck a dû finir par s'assoupir puisque la tente s'est remplie de ses ronflements, graves et rocailleux, comme un ours. J'étais tentée de le frapper et de lui planter un doigt entre les côtes, quelque chose. Mais je suis restée immobile à l'écouter. Je me demandais combien de fois il avait amené Henry ici. Et pourquoi cette idée me contrariait à ce point. Alors enfin j'ai sombré. Les ronflements ont dû cesser à un moment donné. Pour autant que je sache, c'est ça qui m'a réveillée. Le silence. Franck n'était plus là. J'ai pas eu besoin d'allumer ma petite lampe frontale pour le voir. Je sentais son absence dans l'espace réduit. Peut-être qu'il était sorti faire pipi. Il ne pleuvait plus. Il m'a fallu encore un moment pour m'en apercevoir. Le bruit des gouttes d'eau sur l'auvent avait enfin cessé. Puis je me suis rendu compte que dehors, le noir virait au gris. Coup d'œil sur ma montre. 6 heures. J'avais fait ma nuit. D'une traite. Tout se tenait. Franck était un lève-tôt. Peut-être était-il sorti préparer le petit déjeuner. Encore des saucisses, encore du granola. Je me suis levée à mon tour, m'avisant que j'avais aussi besoin de me soulager, sans compter que j'étais tout ankylosée d'avoir dormi sur du bois. J'ai enfilé mes chaussures encore humides, ouvert la fermeture à glissière de la petite porte et sorti une tête dans le monde réel. La forêt était nimbée de brume. De longues écharpes grises s'enroulaient autour des arbres moussus. Glissait dans les hauts buissons de fougères vertes luxuriantes. Le silence, comme l'avait dit Franck. C'était paisible et beau. J'avais lu beaucoup de livres sur la légende du roi Arthur quand j'étais petit. Ces bois ressemblaient à Avalon tel que je l'imaginais. Tout à la fois vert et gris, réel et fantomatique. Pas de Franck à l'horizon. J'ai d'abord expédié les affaires courantes, puis j'ai fait le tour de la petite clairière. Le réchaud était encore froid, donc il n'avait pas commencé le déjeuner. Aucune trace de lui dans les environs immédiats. Ensuite, j'ai eu l'idée de jeter un coup d'œil à l'endroit où nous avions suspendu nos imperméables. Celui de Franck n'y était plus. J'ai alors cherché les carabines qu'il avait mises avec nous dans la tente. Il fallait les garder au sec. Mais le 22, le pistolet que Franck portait souvent sur lui par sécurité avait disparu. C'est là que j'ai compris. La véritable raison de ce prétendu week-end de chasse. Pourquoi Franck avait eu besoin de me fausser compagnie et d'emporter son arme. J'ai attrapé ma veste mouillée et dévalé à toute allure l'étroit sentier qui était la voie d'accès la plus directe au campement. J'ai fait quelques glissades, trébuché sur des pierres. Une fois, j'ai failli faire une culbute à cause d'une racine qui dépassait. Mais je descendais à toute allure parce que... Vers le bas de la côte, j'ai ralenti. Déjà, j'entendais des voix. J'ai parcouru les derniers mètres à pas de loup. Je ne suis pas sortie tout à fait du bois, mais je suis restée à l'abri des fourrés et j'ai fait de mon mieux pour comprendre la scène qui se déroulait à quelques mètres de moi, au bord de la route. Franck était en conversation avec un homme. Un vieux dans un trench coat beige passé de mode, un feutre sur la tête. Le fameux papy, aucun doute. Le père de Sandra. Il se tenait devant une Cadillac noire lustrée. Le papy n'avait pas franchement l'air d'avoir la forme nécessaire pour monter à pied au campement. Gardez vos distances, disait Franck. Je ne sais pas ce que vous voulez à ma famille, mais ma famille ne veut pas de vous. Vous parlez toujours à la place de votre femme. Pas de ça avec moi. Sandra n'acceptera jamais de vous voir, et vous le savez. »
Henry a l'air d'un bon garçon.
Insistez encore, Dave, et je deviendrai le cadet de vos soucis. Sandra viendra vous régler votre compte elle-même. C'est ça que vous voulez ?
Silence. Je vais mourir, Frank.
On en est tous là, non ?
J'ai un cancer, incurable. Ce n'est plus qu'une question de temps.
Frank n'a rien répondu.
La mort, ça vous change un homme, a continué le vieux. On voit les choses différemment.
Monsieur se repentit sur le tard.
Et si c'était le cas ?
Frank a secoué la tête. Ça ne suffirait pas.
Laissez-moi au moins parler aux petits. Ce n'est pas juste de la part de ma fille de m'empêcher de voir mon unique petit-fils.
Elle vous étripera.
Ma fille, elle a été à bonne école avec vous.
Allez voir ailleurs, Dave. Prenez ce conseil comme un service que je rends à un mourant. Allez voir ailleurs où le cancer deviendra le moindre de vos problèmes.
J'ai de l'argent.
Ne soyez pas ridicule.
J'en ai vraiment, je veux dire. Des fonds licites. C'est ce qui arrive quand on reste aux affaires suffisamment longtemps.
Elle n'en veut pas.
Mais je suis son père.
C'est la seule raison pour laquelle elle vous a épargné.
La voix de Frank était glaciale. Glaciale comme je ne l'avais jamais entendue. J'ai eu un mouvement de recul. Je reconnaissais plus cet homme brutal, en colère. « Je vais mourir !» a répété le vieux.
« Alors j'espère pour vous que vous trouverez la paix. Mais le pardon de votre fille, ne rêvez pas. Il y a des péchés qu'un homme doit porter toute sa vie, et parfois emporter dans sa tombe, j'imagine. »
Le vieillard n'a rien dit. Pour finir, il a lâché une expiration, un râle sinistre qui montait de la poitrine. Il a porté la main à sa taille. J'ai vu Frank réagir, passer son bras dans son dos, où il avait caché son 22, certainement. Mais le vieil homme n'a rien fait, il a juste resserré la ceinture de son trench coat. Et regardé Frank avec ses yeux chassieux. Ma fille a toujours été butée, mais jamais idiote. Alors vous lui direz, de ma part, ma mort va changer la donne. Je ne suis pas le seul à savoir où elle vit. Ni le seul à avoir eu un œil sur elle.
Vous menacez ma femme, Dave.
Ma mort va changer la donne, a simplement répété le vieil homme avant de tourner les talons et de regagner sa voiture. Frank n'a pas bougé. Il est resté là, une main toujours au creux des reins, paré à toute éventualité. Et moi aussi j'ai retenu mon souffle pendant que le vieux ouvrait avec effort la lourde portière de la Cadillac, prenait une inspiration caverneuse, et entreprenait de s'installer au volant. Pour finir, la portière a claqué, le moteur a démarré. Le père de Sandra s'est éloigné. La main de Frank s'est écartée de son arme cachée.
« Tu peux sortir maintenant »,
a-t-il dit sans même se retourner. Penaud, je suis sorti des fourrés et l'ai rejoint sur la route.
« J'ai rien vu », ai-je dit. « Exactement. »
Rien entendu non plus.
Parfait.
C'était vraiment le père de Sandra ?
Oui.
Et elle le déteste à ce point ?
Plus que ça.
Je suis toujours censée tirer sur lui à vue ?
Ça éviterait à Sandra d'avoir à le faire.
D'accord. Frank a fini par se retourner vers moi.
Merci.
Demi-tour, retour au campement.
« Tu sais quoi ?» a dit Frank. « J'ai apporté du maquillage. Au lieu d'aller à la chasse, on va consacrer la journée aux techniques de survie en forêt, en commençant par le camouflage. Très important, le camouflage.